Bonjour à tous. On l'avait créé au sein de la gendarmerie pour protéger les agriculteurs victimes d'agressions. Mais 3 ans après, la cellule Demeter fait toujours l'objet de contestations. Bonjour Benoît Colomba.
Bonjour Jacques.
Des associations de défense de l'environnement lui reprochent d'être un instrument au service de la FNSEA et de contribuer à étouffer toute critique du modèle agricole intensif. Et on va voir à travers quelques exemples qu'effectivement la question se pose.
France Inter. Secret d'info, Jacques Monin.
J'ai demandé au directeur général de la Gendarmerie nationale de créer une cellule spécifique pour lutter contre les atteintes agricoles. Cette cellule, elle s'appelle Demeter et elle vise à mettre tous les moyens nécessaires à faire en sorte qu'aucune de ces atteintes au monde agricole ne soit impunie.
Voilà, c'était en décembre 2019. Christophe Castaner, alors ministre de l'Intérieur, visite une ferme dans le Finistère et il annonce au micro de nos confrères de France Bleu Brésisel la création d'une cellule de gendarmes qui sera destinée à protéger les agriculteurs. On va donc voir ce qu'il en est de cette cellule, mais d'abord Benoît Colomba, peut-être ce nom Demeter, expliquez-nous, il vient d'où précisément ?
Eh bien en fait Demeter c'est le nom de la déesse grecque des moissons et pour la petite histoire c'est aussi le nom d'un label agricole qui est encore plus strict que le label bio.
Et derrière ce nom, donc, il y a un dispositif. Alors, il consiste en quoi, ce dispositif ?
Alors, Demeter s'appuie sur une convention de partenariat passée entre le ministère de l'Intérieur, la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale et les deux principaux syndicats agricoles, la FNSEA et les jeunes agriculteurs. D'autres syndicats, plus critiques vis-à-vis du modèle agricole dominant, comme la Confédération Paysanne, eux n'ont pas été associés à cette convention. Mais c'est logique, répond la FNSEA, qui se considère comme l'interlocuteur privilégié des pouvoirs publics et pour qui il était urgent d'agir, comme l'explique son président dans le Cher, Arnaud L'Espagnol.
On a aujourd'hui des vols en exploitation qui s'accélèrent. S'il y a quelques années, c'était des fois un agneau, des volailles à certains moments, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est vraiment fait par des bandes organisées et qui, aujourd'hui, arrive sur des préjudices qui prennent beaucoup, beaucoup d'importance. Du coup, derrière, c'est des réseaux qui sont ralimentés avec ces produits-là. Ou après, sur la partie matérielle, on a des matériels de plus en plus sophistiqués, notamment des matériels embarqués type GPS. C'est des préjudices qui peuvent très vite monter à 10, 12 000 euros pour un vol de GPS. Et quand, dans la nuit, sur 7-8 communes, il y a une dizaine de matériels comme ça qui sont dérobés, derrière, il y a vraiment aujourd'hui un souci de sécurité de ce côté-là.
Un souci de sécurité, mais ça veut dire que la délinquance agricole a augmenté ?
Alors, cette délinquance, elle existe bien sûr, mais les propres chiffres du ministère ne montrent pas d'explosion et même plutôt une baisse des vols avec violence, en 2019 en tout cas, d'où une analyse assez différente du côté du porte-parole de la Confédération Paysanne des Côtes d'Armor, Emmanuel Loye.
Oui, il y a des problèmes de malveillance vis-à-vis des paysans, c'est un fait. Je sais que c'est arrivé à pas mal de collègues d'avoir des vols de moutons, moi j'ai eu des vols de tronçonneuses, donc il y a une réalité. Mais il n'y a pas besoin d'une cellule Demeter, je veux dire, la gendarmerie existait déjà avant 2019.
Ah oui, donc lui partage le constat, hein, mais ne comprend pas, hein, c'est ça qu'on entend, l'utilité de Demeter. Mais alors pourquoi avoir quand même créé ce nouvel outil ?
Eh bien, officiellement, pour être encore plus proche du terrain, écoutez à nouveau Arnaud L'Espagnol de la FNSEA du Cher. Il estime qu'il fallait un dispositif spécifique pour être plus efficace contre les agressions.
Il y a eu suppression de certaines gendarmeries et du coup, la relation avec le terrain est beaucoup plus compliquée parce que quand des gendarmes tournaient sur une dizaine de communes et que maintenant ils tournent sur 50 communes, c'est beaucoup plus compliqué pour avoir les infos. Donc les agriculteurs qui sont présents dans les communes et qui voient un peu différentes choses à différents coins de l'espace rural doivent aussi travailler avec eux pour être aussi informateurs.
Informateur, donc l'idée c'est d'utiliser des agriculteurs comme des agents de renseignement ?
En quelque sorte, pour la FNSEA, il est d'autant plus nécessaire de faire remonter des informations sur d'éventuelles agressions qu'elle voit l'émergence d'une radicalité contre les agriculteurs sur fond de contestation de leurs pratiques. C'est en tout cas le constat que fait le vice-président du syndicat Étienne Gagnon.
Il y avait une montée en puissance d'un mouvement anti-élevage, anti-viande, mais avec des actes très violents, On n'avait jamais vu des abattoirs incendiés. Il y a encore des abattoirs dans certaines villes où, une fois par mois, il y a une action avec des chaînes où on empêche les camions de rentrer. Enfin, c'est devenu récurrent dans notre monde. Pour nous, c'est un peu la négation de notre métier. Quand vous arrivez le matin dans votre ferme, vous voyez des tags « éleveur égale nazi »,« votre élevage, un camp de concentration », enfin, comme ça a été le cas dans le Finistère, vous imaginez bien que ça vous stresse un peu, hein. Et donc, ces intrusions, c'était plus possible. Donc, il a fallu mettre un dispositif spécifique. C'était aussi pour nous un espèce de signal politique de coup d'arrêt, quoi. Dire à un moment donné « stop, ça suffit ».
Oui, ça suffit. On le comprend bien, effectivement. Mais ce qu'on évoque là, Benoît, c'est une violence certes parfaitement condamnable, hein, mais quand même assez différente de la délinquance dont on parlait au début, non ?
Oui, mais si on regarde le document officiel de présentation du ministère de l'Intérieur, Demeter est aussi censé lutter contre, je cite, « les actions de nature idéologique, y compris les simples actions symboliques de dénigrement du milieu agricole. »
Ouais, c'est là qu'il commence à y avoir un souci.
Ah oui, parce que contester un modèle, ce n'est pas forcément se livrer à des actes délictueux, et c'est ça qui pose question à Emmanuel Loye de la Confédération paysanne des Côtes d'Armor.
Ce qui nous a étonné, c'est quand on a creusé, c'est de voir ce qu'il y avait dedans, les vols, les intrusions dans les fermes, etc. Ça a été l'excuse pour en fait criminaliser toute critique du système agroalimentaire. Et nous, de l'intérieur, en tant que paysans, ça a été aussi un coup de massue. Parce qu'en fait, on répond à côté de la plaque, en fait, en mettant une cellule comme ça sur le tapis, quoi. Il y a un certain nombre de problèmes qu'il faut qu'on arrive à traiter clairement. Il y a des vrais enjeux, que ce soit au niveau alimentaire, au niveau climatique. C'est pas par des solutions répressives qu'on va répondre à ces questions-là. Il y a beaucoup de langues, en tout cas, qui se disent « je vais rien dire » parce qu'aujourd'hui, ça devient interdit de pouvoir critiquer le système agricole et agroalimentaire.
Donc la Confédération paysanne estime que le risque, c'est que toute critique du modèle agricole soit criminalisée en quelque sorte.
Oui, et c'est ce que pense aussi la journaliste bretonne Morgane Large, auteure de nombreuses enquêtes sur le lobby agricole. Elle considère que Demeter constitue clairement une réponse au mouvement des coquelicots lancé fin 2018. Vous savez, ce mouvement citoyen qui réclame l'interdiction des pesticides et qui appelle à se rassembler et à signer des pétitions un peu partout en France.
Moi, j'ai vu dans la création de cette cellule Demeter une réponse au coquelicot parce que là, c'était visible. C'est-à-dire que les gens se mettaient devant les mairies, dépliaient une banderole. Nous voulons des coquelicots qui voulaient dire « nous voulons l'arrêt des pesticides ». Et ça n'a pas plu. Il y a eu des contre-manifestations très rapidement, notamment en Centre-Bretagne, dès les deuxièmes réunions des coquelicots. Des manifestations organisées par les agriculteurs les plus intensifs, sans doute aidés par leurs syndicats, les syndicats majoritaires.
Donc elle pense que Demeter, ce serait un outil au service du modèle agricole dominant.
Alors c'est effectivement la critique principale et ce qui renforce cette hypothèse, c'est qu'en même temps qu'on a créé Demeter, on a également mis en place des observatoires répartis sur tout le territoire, chapeautés par les préfets et qui ont été baptisés observatoires de l'agribashing.
L'agribashing, et comment vous le définissez, vous, l'agribashing ?
Eh bien, c'est toute la question. Écoutez là-dessus la réponse du politologue Eddy Fougier. Il est l'auteur du livre « Malaise à la ferme, enquête sur l'agribashing ».
C'est cette idée que dans l'espace public, dans les médias, mais aussi sur les réseaux sociaux, dans l'édition, dans d'autres cénacles, les activités agricoles, l'agriculture conventionnelle au sens large du terme, également un certain nombre de pratiques, font l'objet d'un dénigrement. Les deux principaux axes de critique que dénoncent certains agriculteurs, c'est l'agriculture conventionnelle et ses deux principales caractéristiques que sont l'élevage intensif et l'utilisation de produits phytosanitaires.
Donc l'agribashing, ce serait une forme de dénigrement d'un modèle agricole.
Oui, et d'ailleurs, ce mot, eh bien, il ne vient pas de nulle part, il s'est forgé dans les cercles de l'agriculture intensive. Du coup, le fait d'utiliser ce mot deviendrait une manière d'éteindre le moindre débat, estime Emmanuel Loye de la Confédération paysanne.
Il y a une réalité sur le terrain de mal-être d'un certain nombre de paysans, d'agriculteurs, ça c'est clair. Après, le mot agribashing en tant que tel et par qui il est utilisé, c'est une manière de ne pas traiter le sujet. C'est une manière de ne pas parler de problèmes d'intensification de l'agriculture, de problèmes de concentration, de problèmes de qualité de travail aussi, parce qu'en fait, à la base, quand on s'est retrouvé avec des gens dans des petits abattoirs qui ont été filmés à faire des actions condamnables certes, mais ça pose aussi question sur les qualités de travail qu'ils ont, c'est une manière en fait finalement de passer à côté du sujet, de taire des vrais problèmes qu'il y a au sein du métier de paysan et que les agriculteurs vivent au quotidien.
Cette supposée volonté de taire le débat, Benoît, on la retrouverait aussi à l'école.
Oui, en tout cas, on a vu récemment, en mai dernier, des gendarmes intervenir sur l'agribashing dans un lycée agricole privé en Loire-Atlantique. Alors, c'est un exemple pour l'instant isolé, mais il inquiète Frédéric Chassagnette, le secrétaire général du SNETAP FSU, le principal syndicat de l'enseignement agricole public.
Il n'y aurait rien de rassurant à ce que cette cellule vienne faire un certain prosélytisme dans des écoles en général et dans les lycées agricoles y compris. La présentation qui a eu lieu en Loire-Atlantique, on avait présent aux côtés des gendarmes les jeunes agriculteurs. Et là, on a un souci. Ça veut dire qu'à un moment, c'est pas uniquement le service public de gendarmerie qui fait une démarche. On a un certain modèle d'agriculture qui accompagne, encore une fois, la démarche des gendarmes. On s'aperçoit qu'en Limousin, alors c'est des initiatives préfectorales, on a des établissements publics agricoles qui ont été, on va dire, invités pour faire partie d'observatoires d'émetteurs. Franchement, ça nous interroge. Pour nous, on sort du cadre. Notre domaine, c'est la formation et l'éducation. Ça n'est pas la répression, la suspicion, on est dans un autre champ.
Cet enseignant, il s'inquiète d'autant plus que dans certains lycées agricoles, Benoît, il est arrivé qu'on freine certaines initiatives en faveur d'un autre type d'agriculture.
Oui, dans des lycées dont il faut rappeler qu'ils sont sous tutelle du ministère de l'Agriculture. Ces dernières années, le syndicat de Frédéric Chassagnette a relevé toute une série d'incidents qu'il juge problématiques.
En 2015, on a eu le déplaisir d'avoir la mise en cause par les jeunes agriculteurs. Ils ont même bloqué une initiative de 3 étudiants qui souhaitaient mettre en œuvre une journée sans viande. Et donc, les jeunes agriculteurs s'y sont opposés, considérant que dans l'enseignement agricole, on n'a pas à faire la promotion, ce qui n'était d'ailleurs a priori pas l'objet d'un repas sans viande. Puis, 2017, 2 ans après, là, c'est une étudiante aussi qui prend une initiative et qui propose, figurez-vous, de parler du traitement qu'on peut réserver aux animaux. Dans le langage même de la profession agricole, et c'est tout à son honneur, on parle de bien-être animal. Et ben, pour autant, le simple fait d'ouvrir le débat autour du traitement réservé aux animaux, ils se sont permis là aussi de s'y opposer.
Et on pourrait donner d'autres exemples, comme toujours en 2017, la déprogrammation du film « Petit paysan » dans un lycée agricole dans l'Allier, au motif que ce film donnerait une mauvaise image de l'agriculture.
France Inter. Secret d'info. Jacques Monin.
Bien, alors maintenant qu'on a vu dans quel contexte et à quelle fin la cellule Demeter a été créée, Benoît Colomba, voyons ce qu'elle fait très concrètement.
Eh bien, pour la FNSEA qui accompagne ce dispositif, cette cellule, c'est d'abord une sorte de thermomètre de l'humeur des agriculteurs. Comme j'ai pu le voir, par exemple, à Bourges, des comptes rendus sont ainsi rédigés par la gendarmerie pour faire remonter les inquiétudes du terrain, qu'il s'agisse de la politique agricole commune, des accords de libre-échange, mais aussi des dégâts de gibier ou du tarif du gasoil.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure du thermomètre, en quelque sorte. Ce sera un canal de communication entre les agriculteurs et le pouvoir?
Oui, en tout cas, entre la FNSEA, les jeunes agriculteurs partenaires de Demeter et les gendarmes. Il y a 2 idées derrière ça. D'abord, faire remonter des informations, on l'a dit, mais aussi en permettant aux exploitants de s'exprimer, en leur montrant que les gendarmes sont à leur côté, dissuader certains agriculteurs de se faire justice eux-mêmes en cas de problème, car le risque est réel, estime le représentant de la FNSEA du Cher, Arnaud L'Espagnol.
Un truc qui, aujourd'hui, moi personnellement, me fait peur, c'est demain d'avoir des agriculteurs qui prennent les armes, quoi. Voilà, on en est là, quoi. J'ai pas envie, demain, d'aller dans des prisons voir des collègues parce qu'ils auront fait une grosse connerie, quoi. Et puis de l'autre côté, de pouvoir organiser avec les voisins comment on fait tenir la ferme parce que le chef d'exploitation, il est plus là et puis qu'il y a une famille à faire vivre, quoi. Voilà. C'est vraiment des retours que j'ai de collègues qui sont excédés, quoi.
Oui, donc Demeter aiderait à faire baisser la pression, c'est ça?
Oui, sauf que d'un autre côté, de nombreuses associations environnementales confrontées à Demeter estiment que le dispositif entretient aussi un climat de tension parce qu'il cible des militants qui ne font qu'exprimer leurs opinions, d'où l'inquiétude du vice-président de France Nature Environnement, Antoine Gatté.
Cette cellule Demeter, elle libère la violence, elle légitime la violence locale de la part d'un monde agricole, du monde agricole productiviste. Et pour nous, ça devient dangereux. Avant, on avait du mal à faire notre travail, et sur le terrain, des fois, il fallait expliquer, ça pouvait être compliqué avec certains agriculteurs. Maintenant, on est directement attaqué, nous. On est ciblés. Il y a des panneaux qui fleurissent en ce moment en Corrèze qui sont d'une violence incroyable, sur lesquels il y a marqué « respecte l'agriculteur » ou « dégage ». Ou alors « Office français de la biodiversité, bienvenue en enfer ».
Et cette violence verbale, la présidente d'une association dans l'Aude, Marie Zarditi, en a fait l'amère expérience. En mai 2020, son association proteste contre les épandages aériens de pesticides. Le syndicat des viticulteurs fait alors part de son indignation dans un communiqué. Marie Zarditi n'en est toujours pas revenue.
C'était comme en 40, la collaboration, la nazi-écologie, enfin, des termes absolument invraisemblables. On était quand même assez estomaqués. Hein. Donc le titre c'est « On collabore », puisqu'on va dénoncer les agriculteurs qui continuent à faire des traitements aériens, parce qu'on avait clairement dit « si vous voyez des traitements aériens, dites-le, parce que nous, on ira au tribunal ». Alors ce texte est invraisemblable, il dit « les écolos veulent la mort de l'agriculture française ». On n'a pas le droit de dénoncer la forme de l'agriculture qui ne nous convient pas et de dire « mais nous, on est pour l'agriculture, mais pas pour celle-là ». Donc ça, ils ne supportent pas. Finalement, cette histoire de Déméter, d'une manière ou d'une autre, ça leur a donné des ailes. Ils pensent qu'ils ont tous les droits. On sent qu'il y a une manière de dire « maintenant, il faut que les associations, elles la ferment ».
Et je précise qu'une plainte en diffamation, toujours en cours, a été déposée dans cette affaire.
Oui, ce qu'on entend, Benoît, dans tout ce que vous nous racontez, c'est que finalement, il y a deux camps et que chacun se renvoie la responsabilité du malaise.
Effectivement, ce sont deux visions qui s'opposent et on le comprend très bien en écoutant à nouveau le vice-président de la FNSEA, également président de la Chambre d'agriculture du Cher, Étienne Gagneron.
Il y a de plus en plus d'agriculture biologique, il y a de plus en plus de circuits courts, il y a de plus en plus d'agriculteurs qui font de la transformation sur place, qui travaillent sur des réseaux, qui essayent d'alimenter les cantines, voilà. Mais ça va jamais, et il y a toujours des gens qui arrivent en disant « ouais, c'est pas possible, c'est lamentable, il y a une ferme-usine à tel endroit où il va y avoir 50 000 poulets, c'est une honte », alors que dans le même temps, en Ukraine, c'est des usines de 300, 400 000. Quand la critique, elle est systématique, quand il y a des efforts permanents de la part des agriculteurs, il faut aller toujours plus loin, toujours plus loin, et en plus, votre rémunération, elle est même pas assurée. Et c'est ce cumul des choses qui fait que les agriculteurs, ils supportent plus l'agribashing.
Ouais, cet agribashing, entre guillemets, hein. Il est dénoncé également par une partie de la presse agricole.
Oui, c'est ce qu'explique la journaliste Morgane Large de Radio Crèze-Brèze dans les Côtes d'Armor, qui suit ce sujet depuis de nombreuses années. Pour elle, la presse agricole fait passer un message très anxiogène.
Il y a eu une page entière sur l'écoterrorisme. Le journal rendait compte d'une conférence commandée par l'association des producteurs de viande en Bretagne, qui comparait L214 et les associations animalistes à Daesh, ou même les zadistes. Les agriculteurs, ils reçoivent cette presse gratuitement dans leur boîte aux lettres le vendredi midi. Ils lisent ça, et bien ils ont l'impression que les gens qui sont un peu écolos, ce sont des terroristes. Il y a eu un autre article qui disait L214, une machine de guerre. On emploie un vocabulaire qui est en rapport avec des conflits armés. Ça fait peur quand même. J'ai vu des gens sur les réseaux sociaux, des agriculteurs qui ont des poulaillers intensifs, par exemple, publier des photos où ils ont le fusil et les cartouches sur la table. Eh bien, moi, je suis persuadée qu'il y a une responsabilité aussi de la communication agricole dans cette montée de paranoïa. C'est des gens qui sont soumis à un stress économique important. Et là, tout à coup, on leur montre qui est l'ennemi.
Ce climat de tension qu'elle décrit, Morgane Large, elle en a elle-même fait les frais.
Oui, pour avoir témoigné sur le lobby agroalimentaire et les poulaillers géants en Bretagne dans un documentaire sur France 5, la journaliste s'est retrouvée dans la tourmente. Sa photo a été publiée sur les réseaux sociaux avec des commentaires désobligeants, mais ça ne s'est pas arrêté là.
Je reçois énormément de messages extrêmement désagréables où on menace de venir chez moi m'embêter. Ensuite, j'ai des chevaux et j'ai deux vaches. Mes animaux ont été mis en divagation un jour où j'étais pas chez moi. On ouvre mes fils. Donc, il n'y avait aucun doute sur le fait que c'était volontaire. Les locaux de la radio pour laquelle je travaille, on force les portes des deux locaux pour juste abîmer les portes. Il n'y a pas d'intrusion. On veut rien nous voler. Mon chien intoxiqué au mois de janvier, ça faisait déjà 2 mois que le documentaire avait été diffusé, donc j'imaginais que ça allait un peu se tasser. Et puis, en mars, ça continue, puisque là, je me rends compte qu'on est venu à mon domicile, qu'on a enlevé sur ma voiture 2 boulons, sur une roue arrière, et que j'ai sans doute roulé comme ça pendant plusieurs jours.
Bon, et comment ça s'est terminé ?
Eh bien, la journaliste prévient aussitôt les gendarmes, qui lui conseillent alors d'installer des caméras chez elle.
J'avais quand même le sentiment sourd qu'on ne prenait pas la mesure de ce qui était arrivé. J'avais l'impression qu'on voulait me dire « Madame, paniquez pas, quoi ». Je dis, mais c'est pas possible, si ça continue, on va qualifier ça de vol de boulons. C'est assez ridicule quand, avant de partir au boulot le matin, on fait le tour de sa voiture et on se met à quatre pattes pour regarder en dessous ce qu'il y a. C'est ridicule, mais c'est raide, quoi. Et même des fois, je me suis réveillée la nuit, j'avais entendu du bruit dehors et j'arrivais même pas à me lever de mon lit. Et que j'étais pas capable d'intervenir, en fait. Sur un mode de protection, ben, je bougeais plus, quoi. Voilà, c'est aussi ça, la sidération.
Et depuis, une enquête a été ouverte, mais sans résultat pour l'instant.
Mais ça veut dire que Déméter ne protégerait pas tout le monde de la même manière ?
Eh bien, c'est un peu ce que dénoncent certaines associations qui ont l'impression que la cellule réprime avant tout des actions militantes. Écoutez par exemple ce qui est arrivé à Henri Plandet. Fin 2020, ce président d'une association anti-pesticides en Gironde décide d'organiser une grande réunion publique dans son village. Et voilà ce qui se passe.
J'ai eu un appel de la gendarmerie me disant, Monsieur Plandet, vous êtes bien le président d'Alerte Pesticides au Gironde, oui, oui. Vous organisez une réunion, nous aimerions savoir de quoi vous allez parler, qui sera là. C'est la première fois que nous avions un appel de la gendarmerie pour ce genre de choses. J'étais très étonné, je me suis dit, c'est quoi, c'est les RG, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Bon, rire un peu gêné au bout du fil, et j'aurais dit, ben, y a pas de secret, il y aura telle et telle association, et puis venez voir, vous venez y participer même, ce serait le plus simple.
Et donc là, c'est plutôt bon enfant, non ?
Oui, sauf que l'histoire ne s'arrête pas là. D'autres coups de fil vont suivre. Et un dimanche, deux gendarmes se déplacent cette fois au domicile d'Henri Plandet.
Ils viennent barder d'armes et de gilets pare-balles et tout ça. Enfin, c'était hallucinant. Je les reçois dans mon salon. J'aurais dit, alors vous êtes là pour Déméter, dans lequel on vous demande de travailler. Ça ne doit pas vous mettre très à l'aise, quoi. S'en est suivi un entretien sur, ce qu'on faisait, ce que faisait l'asso, quelle valeur elle défendait. Bon, ils ont compris qu'on n'était pas des Khmers verts, en tout cas. J'ai eu affaire à deux personnes très à l'écoute et bienveillantes, quoi. Mais je me disais, j'arrêtais pas de me dire, si jamais je tombe sur deux furieux, un mec qui veut faire carrière ou quoi que ce soit, ou si jamais on a un gouvernement un peu plus virulent, bah, je peux aller bouffer des oranges en prison, quoi. Ça peut aller vite, hein.
Ça peut aller vite, en même temps c'est de la spéculation, là ça s'est plutôt bien passé, non ?
Oui, sauf qu'il n'est pas le seul à s'inquiéter de ce type d'intervention. En février 2020, de nombreuses associations, dont la Ligue des droits de l'homme, ont réclamé la dissolution de la cellule Déméter, estimant qu'elle constituait une atteinte à la liberté d'opinion. Et plusieurs témoignages que nous avons recueillis font effectivement réfléchir. Écoutez par exemple l'histoire d'Antoine Gatté. En janvier 2020, ce juriste à l'association Sources et Rivières du Limousin est contacté par des journalistes qui réalisent un reportage sur l'installation controversée d'une serre industrielle de tomates hors sol dans une zone humide.
Au moment de la fabrication de l'installation des serres, on a été contacté par France 3 Limousin, qui avait suivi notre combat contre l'installation en disant « Est-ce que vous voulez bien venir avec nous sur le terrain pour nous montrer aujourd'hui si les zones humides ont été touchées, quel est l'impact de cette installation et s'il y a toujours un problème avec cette installation ?»
Et donc, qu'est-ce qui se passe ?
Eh bien, Antoine Gatté se rend sur place pour répondre aux questions des journalistes. Le président de la Confédération paysanne de Corrèze est également là. Tous préparent minutieusement l'interview.
On réfléchit où est-ce qu'on se met ? Je suis sur un espace non clôturé, en dehors du site, en dehors des travaux. Et dans l'interview, effectivement, je continue à dénoncer l'installation de cette serre industrielle. Et puis surtout en montrant techniquement les zones humides détruites, les espèces, et à terme, une zone humide beaucoup plus importante qui va être impactée par ça. Donc on fait cette interview, elle est diffusée à la télévision. Et je reçois un samedi la visite de deux gendarmes en habillés, en armes et tout ça, chez moi, alors que mon fils était en train de jouer dans le jardin, alors qu'on était en train de discuter avec les voisins. Quand les gendarmes débarquent chez quelqu'un, c'est qu'il se passe quelque chose.
Et en l'occurrence, qu'est-ce qui se passe ?
Eh bien voilà ce que disent les gendarmes à un Antoine Gatté assez stupéfait.
On va vous entendre dans le cadre d'une enquête liée à une violation de domicile dans le cadre du reportage sur France 3. Mais vous inquiétez pas, vous n'êtes pas mis en cause, vous êtes juste témoin. Et on découvre assez rapidement qu'en fait, on est dans la mise en œuvre de ce nouveau mécanisme Déméter et que les agriculteurs ont été très mécontents que le reportage, qui était pour eux un reportage qui devait montrer l'installation de leur serre et quelque chose de très positif, ait été retourné par le France 3 local en un reportage qui finissait par dire que finalement, ça avait détruit les zones humides, qu'il y avait un vrai problème et autres.
Mais qu'est-ce qu'on lui reproche au fond, Benoît ? C'est d'avoir tenu des propos hostiles au projet ou d'avoir pénétré illégalement sur un terrain privé ?
Eh bien, visiblement, le soupçon, c'est d'avoir pénétré illégalement sur le terrain des propriétaires de la serre industrielle. Mais pour Antoine Gatté, avocat de profession, tout ça ne tient pas debout.
Je suis à aucun moment rentré dans les bâtiments, ni rentré dans un espace clos. On avait justement fait attention à ça. Dans le reportage de France 3, ça se voit très bien qu'on est sur un champ et qu'on n'est pas du tout dans l'enceinte de quelque chose. Juridiquement, ça ne tient pas. Et on se retrouve dans une situation ubuesque dans laquelle on me fait perdre un temps monstre. Et en plus, on atteint à ma réputation, parce que c'est de l'atteinte à la réputation, c'est rien d'autre. Hein.
Et la procédure sera finalement classée.
Et les gendarmes, eux, ils en disent quoi de tout ça?
Eh bien, j'ai contacté la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale et le ministère de l'Intérieur. Et malgré mes nombreuses relances, ils n'ont pas souhaité s'exprimer sur cette question de la cellule Déméter.
Et on le regrette, et on va d'ailleurs s'interrompre un moment là-dessus, mais surtout restez avec nous dans quelques instants, nous allons vous raconter comment des gendarmes ont aussi obligé une journaliste allemande à effacer les bandes d'un reportage qu'elle avait réalisé. Punk sort de ce corps, c'était Something Greater, extrait du premier album de Parcels qui sort la semaine prochaine. Parcels, c'est un groupe australien qui s'est installé à Berlin.
France Inter, Secret d'info, Jacques Monin.
Alors on a vu comment la cellule Déméter intervient parfois chez des particuliers, Benoît Colomba, mais on va maintenant voir que d'autres fois ça va encore plus loin.
Oui, et pour s'en rendre compte, il faut se rendre à nouveau en Bretagne, en mars dernier, au moment où la voiture de la journaliste Morgane Large a été déboulonnée. Au même moment, une autre journaliste se rend sur place pour réaliser un reportage pour la radio allemande sur le poids de l'écologie avant les élections régionales en France. Cette journaliste, elle s'appelle Bettina Kaps et elle s'exprime publiquement pour la première fois sur le sujet. Voilà ce qui lui est arrivé alors qu'elle se promenait avec son micro le long d'un chemin agricole dans la commune de Glomel.
À côté de moi, il y a un tracteur. J'en profite et j'enregistre l'ambiance du tracteur. À ma surprise, le tracteur ralentit. L'agriculteur me demande ce que je fais. Donc je lui explique que je suis journaliste et que je suis en reportage et je prends juste le son de son tracteur. Et il me dit que ça lui plaît pas. Il continue de labourer son champ. Je continue ma balade et finalement, 10 mètres plus loin, je crois que c'est lui qui m'adresse la parole. Et on commence à discuter. Et j'ai toujours mon enregistreur. Il me demande si je suis végétarienne, si je suis pour le bio. Je lui demande ce qu'il fait. Je dis, alors, quels sont vos rêves? Il me dit, un méthanisateur. Il me dit, ça vous plaît pas. Et je dis, franchement, j'ai pas d'avis. Donc, je sens qu'il veut me mettre dans un camp, quelque part, voir si je suis pour lui ou contre lui.
Mais en quelques secondes, le ton de la conversation va se tendre. Écoutez encore Bettina Kaps.
Il voit que j'ai le micro et là, il change du tout au tout. Il me tutoie, il dit « tu enregistres » et commence à m'insulter, à m'intimider. Il me dit « con » ou « connasse », je ne sais plus « con » et il dit tout de suite « je vais appeler la gendarmerie ». Et là, je me souviens et je dis « ah, la cellule Déméter » et je suis très perturbée et il me dit « tu restes là jusqu'à ce que les gendarmes arrivent ». Je me sens agressée et un peu, je me dis, qu'est-ce qui va se passer? Vaut mieux que tu te tires de là. Ça devient désagréable.
Donc la journaliste quitte les lieux et ensuite?
Eh bien, selon Bettina Kaps, une course-poursuite s'engage alors avec l'agriculteur, puis elle se réfugie dans la salle du restaurant de son hôtel.
Tout d'un coup, il y a 3 coups. Quelqu'un frappe très fort. Je me souviens que j'ai dit tout bêtement, entrez. Et qui est-ce que je vois? La tête de cette jeune agriculteur. Et il me dit, tu sors tout de suite, les gendarmes sont là. Et je vais dans la cuisine où il y a l'agriculteur et 2 gendarmes, une femme et un homme. Je me souviens, par exemple, il dit devant les gendarmes, il dit « garce ». Alors il y a un moment où je dis aux gendarmes « vous voyez comment il se comporte, vous lui dites rien ».
Et comment ça se termine alors ?
Bien, d'une manière plutôt surprenante, les gendarmes demandent à la journaliste d'aller chercher son enregistreur radio et selon Bettina Kaps, ils vont même plus loin.
Les gendarmes obligent d'effacer l'enregistrement que j'ai fait avec l'agriculteur. Dans ma tête, je me dis, quels sont mes droits, quels sont mes devoirs? Si j'avais un juriste sous la main, je demanderais. Mais bon, dans le feu de l'action, je m'exécute. C'est quand même incroyable. Ces gendarmes, ils m'ont dit qu'ils ont mis 45 minutes pour venir parce qu'il n'y a pas de gendarmerie plus proche. Et après coup, je me suis vraiment dit, si j'ai un différend dans la rue avec quelqu'un, disons un automobiliste ou quoi que ce soit, il n'y a pas de dégâts. Et rien de grave. Si moi j'appelle les policiers ou la gendarmerie, ils ne vont pas venir, c'est n'importe quoi.
Et je précise que les gendarmes expliqueront par la suite qu'ils ont simplement voulu apaiser la situation sans volonté de faire pression sur le travail de la journaliste.
Ouais, sauf que l'histoire ne s'arrête pas là.
Bah, effectivement, parce que le maire de la commune où se déroule tout ça, Thierry Troël, par ailleurs lui-même agriculteur bio, est très rapidement prévenu de ce qui vient de se passer avec la journaliste allemande, mais aussi du sabotage de la voiture de Morgane Large. Il décide donc de publier un communiqué condamnant les faits et appelant au respect des règles de la République. Et quelques heures plus tard, voilà ce qui se passe.
Le samedi soir, les 2 gendarmes viennent chez moi. Ils m'expliquent ce qui s'est passé. Et ils m'expliquent que la réaction de l'agriculteur est une réaction légitime. Je suis surpris et je ne suis pas seul. Hein. Ma compagne est là, ma sœur aussi. On essaye de leur expliquer que ce type de réaction n'est pas souhaitable du tout. Clairement, ils me disent « ça prend des proportions ». Et donc, ils veulent avoir mon sentiment, tout en essayant de me convaincre que les torts sont plutôt du côté de la journaliste allemande.
Oui, donc là, on échange des arguments, même si on l'entend, hein, les protagonistes en tout cas ne sont pas d'accord. Et puis le maire de Glomel va ensuite recevoir une visite un peu plus désagréable.
Oui, cette fois en mairie, la visite de l'agriculteur concerné par l'altercation avec la journaliste, comme le raconte encore Thierry Troël.
À 9h moins le quart, je suis là, dans la mairie, et débarque la personne concernée par l'altercation et son frère, en me disant « tu n'as qu'un son de cloche, les choses ne se sont pas passées du tout comme ça », et donc me conseille très vivement de rédiger un démenti pour ne pas avoir d'ennui avec les syndicats. Je reprends la formule telle qu'elle m'a été formulée ce matin-là. Je réponds de manière assez vive que c'est pas lui qui va m'expliquer comment on doit diriger cette mairie. Ils considéraient qu'ils étaient agressés eux et que donc ils étaient fondés à, entre guillemets, se rendre justice eux-mêmes. C'est contre ça qu'on s'est érigé.
Et je précise que nous avons contacté l'agriculteur concerné, mais qu'il n'a pas souhaité répondre à nos questions.
Ouais, donc on n'ira pas plus loin sur cette affaire-là. Maintenant, ce qu'il faut aussi dire, Benoît, et ce sera d'ailleurs notre conclusion, c'est que ce sentiment que Déméter est instrumentalisé à des fins politiques, hein, disons le mot, il inquiète au-delà du monde agricole.
Oui, c'est ce que constate notamment un rapport publié en octobre 2020 par l'Observatoire des libertés associatives. Une équipe de chercheurs décrit dans ce rapport de multiples entraves à la vie associative, comme l'explique Benjamin Souris de l'association Vox Public.
Il y a une criminalisation, une gestion beaucoup plus policière de l'opposition politique que représentent les associations, ça semble assez évident, parce que c'est cette effervescence citoyenne aussi hein, qui est réprimée directement. D'ailleurs, nous, quand on parle de liberté associative, c'est pas seulement la liberté de créer une association selon la loi 1901, qui est bien connue, qui est finalement la liberté de créer une structure administrative. Non, on parle aussi des libertés associatives, qui sont la liberté d'expression, la liberté de manifestation, la liberté de réunion et la liberté d'opinion. Et c'est ces libertés-là, aujourd'hui, qui sont dans leur ensemble menacées, grignotées, et qui font que, oui, il y a un recul de la liberté associative.
Et cette préoccupation, on la retrouve aussi avec la loi confortant le respect des principes de la République, dite également loi de lutte contre le séparatisme. Plusieurs dispositions de ce texte inquiètent une partie du monde associatif qui craint qu'on puisse sanctionner des associations pour des motifs idéologiques ou parce que leur discours ne convient pas aux autorités.
Bien, merci Benoît Colomba. Alors je précise, puisque c'est la fin de votre enquête, qu'on peut la réécouter, la lire ou la podcaster sur franceinter.fr et sur l'appli France Inter. Vous pouvez aussi nous y laisser vos commentaires, comme vous pouvez le faire d'ailleurs sur la page Facebook de la cellule Investigation de Radio France ou encore sur Twitter Investigation RF. Secret d'info, c'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission a été préparée par Mélissa Foust et réalisée par Christophe Imbert. C'est Jean-Baptiste Audibert qui a choisi la musique. Et à la technique, il y avait Pauline Laverdure. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à samedi prochain.